Un prénom, Grégory, un visage, celui d'un enfant souriant de 4 ans, et les Vosges pour théâtre de celle qui a sans doute été la première affaire criminelle à autant passionner les Français 40 ans après la mort du petit Grégory Villemain. La justice veut de nouveau entendre sa grand-tante Jacqueline Jacob et son mari, déjà mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort en 2017, mais un vice de forme avait alors mis fin aux poursuites. Elisa Drin.
Les soupçons des enquêteurs reposent en partie sur cette dernière lettre envoyée par le corbeau à Jean-Marie Villemain au lendemain de la mort de son fils Grégory.
« J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te rendre ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. »
Une analyse de stylométrie effectuée en 2021 a révélé d'importantes similitudes entre le style d'écriture de ce courrier et celui de Jacqueline Jacob, la grand-tante de Grégory Villemain, 80 ans, devra s'expliquer devant les juges dans les prochains mois. Le petit garçon de 4 ans est retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne le 16 octobre 1984. L'enquête porte rapidement sur l'environnement familial des Villemain. Un clan rongé par les jalousies et les rancœurs. Les parents et les grands-parents de l'enfant sont les cibles depuis plusieurs années de lettres menaçantes et de coups de fil injurieux passés par de mystérieux corbeaux. Trois semaines après le meurtre de Grégory, le cousin de Jean-Marie Villemain fait figure de principal suspect. Bernard Laroche est écroué après le témoignage accablant de sa belle-sœur Muriel Boll. Cette dernière affirme être allée chercher Grégory avec lui en voiture, avant de se rétracter.
Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère.
Bernard Laroche est remis en liberté en février 1985. Persuadé de sa culpabilité, Jean-Marie Villemain abat son cousin d'un coup de fusil. Christine Villemain est à son tour accusée d'infanticide, puis blanchie. Des années plus tard, grâce au progrès de la science, les lettres et les appels du ou des corbeaux sont de nouveau analysés. Et des rapprochements sont ainsi faits avec la grand-tante et le grand-oncle de Grégory. En 2017, Jacqueline et Marcel Jacob sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Sur notre antenne, ils clament leur innocence.
Moi, j'ai jamais écrit, j'ai jamais rien fait.
J'ai jamais écrit de lettre.
J'ai pas peur là-dessus, hein.
Ah non.
Moi, j'ai pas peur du tout, hein. Moi, ils peuvent bien refaire ça 40 000 fois, les ADN ou n'importe quoi. Oh, j'ai pas peur, hein.
Muriel Boll est-elle aussi mise en examen en 2017? Mais l'année suivante, toutes les poursuites sont annulées pour vice de procédure. 40 ans plus tard, l'enquête est toujours en cours.
Affaire suivante avec Laurent Valdiguier aujourd'hui. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Chastan-Morand. Bonjour. Vous êtes l'avocate des parents de Grégory, Jean-Marie et Christine Villemain. À vos côtés, Alain Boer. Bonjour. Professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers. Vos deux derniers ouvrages, dans les mains, Menace sur Taïwan et Opération Zelensky, paru chez First. Et le général François Daoust. Bonjour.
Bonjour.
Ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, par ailleurs professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi Pontoise. Laurent, pour débuter, quand on parle de l'affaire Grégory, elle parle à tout le monde. C'est une affaire, les superlatifs se sont pas dit, mais totalement extraordinaire, totalement hors norme.
Bah, c'est vrai qu'on vit avec pendant depuis 40 ans et puis que c'est l'affaire qui où tout a déraillé. Ses familles déjà, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il y a un corbeau, il y a des haines cuites et recuites, ils cherchent un bâtard dans ses familles, c'est leur obsession, c'est l'obsession du corbeau. Les voisins ont déraillé aussi, parce qu'on sait aujourd'hui que la voisine, elle a fait un faux témoignage, si elle avait dit ce jour-là qu'elle avait vu, on le saura des années plus tard, une voiture verte, ça aurait tout changé. Les gendarmes ont mené une enquête, s'ils avaient cuisiné différemment, s'ils avaient réalisé différemment le témoignage de Muriel Boll, on n'en serait pas là. Le juge Lambert, qui a fini par se suicider, lui aussi, il suit la piste de Christine Villemain, souvenez-vous, c'est lui qui dit « cette femme est coupable ». La presse aussi balaye devant sa porte, c'est tous les dérapages de la presse, ils sont. Donc tout a dérapé. Tout a dérapé, et puis depuis 40 ans, toujours avec cette même photo qui traverse nos vies qui parle à tout le monde. Ben, un petit enfant de 4 ans attend que justice soit faite. Et au fond, ben, tous ceux qui ont déraillé, la police, la justice, la gendarmerie, et puis nous, la presse, et puis la famille. Parce qu'on sait bien que tout ça se noue dans un huis clos familial. Au fond, tout ça doit la vérité à cet enfant.
Avant d'en venir à l'actualité récente et ce qui fait le pourquoi de notre émission aujourd'hui, Alain Boer, vous qui connaissez comme peu de personnes, l'actualité, l'histoire de la criminologie, des affaires judiciaires. Est-ce qu'il y a des qualificatifs pour l'affaire Grégory, comme on l'appelle ?
Alors moi, je pense que ça fait partie des enquêtes éternelles. C'est un sujet sur lequel je vais pas tarder à écrire quelque chose chez mon éminent collègue dans Marianne.
Laurent Vallier.
Laurent, oui. Mais c'est un sujet tout à fait fascinant parce que nous avons, avec l'affaire Méchino, 50 ans de mystère absolu, une famille qui disparaît entre Cognac, autour de Cognac.
Un soir de Noël.
Le soir de Noël, où tout reste en place, sauf la voiture, les parents et les deux enfants. Et c'est le seul endroit où je pourrais dire que si on m'explique que des extraterrestres existent et sont venus, je dirais pourquoi pas, en fin de compte. Parce que pas le début du commencement d'un indice, rien. Des pistes, des idées, des machins, mais rien. Cette affaire-là, où on a le corps du délit, jeune enfant retrouvé, et la photo de l'enfant dans les bras du pompier, un saccage de scènes de crime comme rarement on en a vu, partout, à peu près tout le monde, les gendarmes, les pompiers, les médecins, les journalistes, enfin c'est quand même la scène de crime la plus saccagée de l'histoire. Je pense que Edmond Locard, l'inventeur de la criminalistique, se serait suicidé en regardant la scène de crime, ou ce qu'il en restait. Une affaire qui touche un enfant, un drame familial comme s'il expliquait, et puis désormais, un élément qu'on n'avait pas imaginé au feu du temps. On a cherché le coupable, le corbeau, la voiture verte, le chauffeur de la voiture verte, la personne qui aurait pu être avec le chauffeur de la voiture verte. Ce moment très bizarre où il faut vraiment tomber dans les 15 minutes possibles pour que ça marche. Le dépôt d'une lettre anonyme en direct. Elle est déposée à 17h15. On découvre les événements à 17h30. Elle arrive le lendemain matin, et tout d'un coup, on se trouve face à quelque chose d'inattendu, le crime de l'Orient Express en version moderne. Peut-être une opération à plusieurs. Et donc, c'est l'affaire qui est le cumul ou la synthèse de toutes les affaires éternelles qui nous poursuivent les uns et les autres en se disant quand même un jour, on pourrait avoir la réponse à l'affaire Jacques Léventreur. Alors, on a des réponses à Zodiac, on a des réponses, on sait à peu près des choses, mais on n'est jamais sûr de rien. Là, on a le cumul de toutes les affaires de toutes sortes, totalement éternel, on n'aurait jamais osé écrire un scénario pareil.
Et pourtant. Maître Chaston-Morand, comment, vous qui êtes les avocats des parents du petit Grégory, d'abord partie civile, et puis après, évidemment, avec ses ratés dans l'enquête, vous êtes devenu l'avocate d'un assassin présumé, puis l'autrice d'un infanticide, ce qui est particulier, on vous attendra là-dessus. Mais comment vous avez accueilli ces nouveaux développements, cette possible audition, cette possible mise en examen de la grand-tante Jacqueline Jacob?
C'est une affaire que je qualifierais, pour ce qui me concerne, de hors norme. On a entendu effectivement tous les dérapages, toutes les erreurs, et je crois que cette affaire peut être donnée en exemple de ce qu'il ne faut pas faire à toutes les écoles.
Bien sûr.
Que ce soit police, barreaux, magistrature,
médias, presse,
journalisme, criminologie. Vraiment le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Je crois qu'il y a une constante. La constante, c'est la volonté viscérale de Christine et de Jean-Marie Villemain, donc les parents du petit Grégory, de connaître la vérité. Après, vous avez rappelé qu'effectivement, nous avions été avocats de partie civile, et puis ensuite avocats d'inculpés, comme on disait à l'époque. Jean-Marie, nous l'avons défendu en tant qu'accusé devant la cour d'assises.
Pour le meurtre de
Bernard Laroche, bien évidemment. Et maintenant, nous sommes partie civile, à nouveau, parce que Jean-Marie et Christine Villemain ont voulu la réouverture pour savoir, enfin, et c'est l'élément, le dénominateur commun de cette affaire, c'est la quête de vérité. Alors, comment nous avons accueilli ce supplément d'information? Eh bien, Jean-Marie et Christine Villemain l'ont accueilli très favorablement, parce que cela montre que c'est un seuil, c'est un nouveau seuil, et ça me paraît logique, parce qu'à partir du moment où il y a un supplément d'information qui dure quand même depuis l'année 2008, il y a eu une réouverture en 2008. Donc depuis 2008, un certain nombre d'éléments ont été engrangés, sont entrés dans le dossier. Vous avez rappelé qu'il y a eu une mise en examen et puis
elle
a été annulée pour vice de forme pour les époux Jacob. C'était en 2017, sauf erreur de ma part. Oui. Et depuis 2017, eh bien, il y a de nouveaux éléments qui ont encore été engrangés. Et à partir d'un certain moment, quand on voit que le dossier a rentré beaucoup de choses qui mettent, j'allais dire, le focus sur une personne, eh bien, il est de bonne justice, il est juridiquement tout à fait normal d'envisager d'entendre cette personne pour qu'elle puisse donner ces éléments, qu'elle ait connaissance de ce qui est dans le dossier et qu'elle puisse s'expliquer. Donc voilà comment nous l'accueillons, comme un nouveau seuil qui va permettre, nous l'espérons, d'entendre, d'avoir de nouveaux éléments.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un petit bémol à la défaillance générale, c'est qu'en 2008, Jean-Marie Villemain et les époux Villemain relancent l'affaire avec la juge, il faut lui rendre hommage, Claire Barbier. Ouais. Et qui, avec les gendarmes, et là c'est un peu l'honneur de la gendarmerie, parce que c'est vrai qu'autant la gendarmerie n'a pas été forcément à la hauteur de ce grand crime en 1984, autant là ils font un travail de titan. Ils reprennent un dossier à zéro. Et là, alors qu'il y avait eu la première hypothèse, Bernard Laroche tout seul, la deuxième hypothèse balayée par l'autre juge, Jules Simon, Christine Villemain ayant tué son fils, là ce sont les gendarmes qui émettent une troisième hypothèse en 2017, et qui explique beaucoup de choses et beaucoup des incompréhensions jusque-là, ça peut être un crime collectif. Un meurtre
L'Orient Express
à plusieurs. Un meurtre à plusieurs. Et au fond, Bernard Laroche, dans ce scénario, arrêtez-moi. Dans ce scénario, Bernard Laroche enlève Grégory, par d'ailleurs un concours de circonstances extraordinaire, puisque Grégory, ce jour-là, ça faisait 15 jours qu'il n'était jamais sorti de chez lui, il était malade. C'est vraiment les 5 premières minutes où il joue avec sa petite voiture sur un tas de sable. Et Bernard Laroche le kidnappe, et ensuite poste cette fameuse lettre. C'est vrai que cette lettre anonyme qu'on a vue tout à l'heure, elle est folle, puisque l'auteur de cette lettre qui dit « ma vengeance est faite », Grégory est vraisemblablement dans la voiture, vivant à ce moment-là, et le remettrait à d'autres. Et c'est vrai que ça, le général Daous qui a dirigé cette équipe, cette grande équipe de la gendarmerie, on dit tout le temps l'IRCGN, on croit tout le temps que c'est seulement de l'ADN et tout ça. Pas seulement, ce sont vraiment des profilers, vous n'aimez pas ce terme en général, mais ce sont vraiment des gens qui ont repris à zéro et qui ont trouvé l'hypothèse d'un crime à plusieurs. C'est ça ?
Alors, on est parti d'un crime hors norme, ça l'est. Un crime qui devait servir de leçon pour l'avenir, c'est ce qui a été. Puisque ça a déclenché chez le ministre de l'Intérieur à l'époque, Jox, la volonté de créer la sous-direction de la police technique et scientifique pour la police nationale, et c'est à l'origine de la création du laboratoire de l'IRCGN D'accord. pour la gendarmerie. Donc, je passe les 40 ans d'évolution de technique et pour arriver à ce que vous disiez, avec le pôle judiciaire où on a d'un côté, tout ce qui est technique, expertal dans tous les domaines, et de l'autre côté, le service central de renseignement criminel, qui mettent en commun, avec des plateaux d'investigation qui sont où les uns parlent avec les autres, où la criminologie a besoin de la criminalistique, pour arriver à exploiter et interpréter. Et ça fait partie de ça, à la fois les spécialistes des sciences du comportement, à la fois ceux qui travaillent sur les traces, qu'elles soient les traces sur les papiers, sur les écritures, etc. Et on a parlé de la fameuse stylométrie. Qui est quelque chose de nouveau, qui est rien de nouveau, sous le soleil.
C'est simplement... C'est la graphologie.
C'est de la linguistique forensique, c'est-à-dire de la linguistique. Nous parlons chacun avec nos mots, notre phrasé, nos syntaxes, nos barbarismes, nos idiotismes et notre culture familiale comme la culture de l'éducation. C'est quelque chose qui nous détermine au même titre que notre voix, que notre ADN ou autre.
Alain Bauer, je précise justement les propos du général. Pour Claude-Alain Rotten, c'est l'expert suisse en stylométrie, il estime que les 4 courriers qui ont été envoyés et la transcription également, c'est là qui est intéressant, de l'appel téléphonique du corbeau, viennent de la même personne, et en écho encore une fois aux propos du général, il évoque une éducation très basique et une forme de rage. Et c'est ce qui fait que lui... se tourne vers Jacqueline Jacob.
Alors d'abord, je voudrais d'abord faire un deuxième salut à la gendarmerie, c'est la protection et le maintien des scellés et des indices. Car en général, quand on saccage une scène de crime, la suite n'est pas du meilleur niveau. Pour une fois, que ça soit le timbre avec l'ADN, les cordelettes, les nœuds, les lettres, etc. Il faut saluer l'effort de préservation du futur. Après un début plus chaotique, il faut quand même souligner ça, il y avait des éléments qui permettaient de reprendre cette enquête. C'est quand même formidable. Et deuxièmement, comme l'a très bien dit le général, en fait, on a la graphologie, c'est l'art de faire des lettres, et la stylographie, c'est l'art de faire des mots. C'est le style, la stylométrie. Et il y a là des éléments qui viennent se rajouter à toute une série, alors non pas de nouveautés, ça faut être honnête en général, mais d'accélération grâce à la technologie, des capacités d'enquête, c'est comme l'ADN de parentèle, c'est pas un nouvel ADN, mais ça permet d'élargir l'ADN. Là, c'est à la fois du style et de la statistique avec des outils modernes d'analyse qui accélèrent et élargissent le champ des possibles. Et c'est ce qui permet de tout recaler. Et bientôt, j'espère, un jour, avec la bande magnétique de l'époque qui a été préservée miraculeusement. Alors ça, c'est vraiment... un jour, peut-être, le numérique et l'IA vont permettre de nouvelles avancées, on ne sait jamais. Et donc, chaque fois, on voit arriver des éléments qui ne sont pas totalement nouveaux, mais qui modifient et approfondissent la capacité de l'enquête. Donc, tous ces éléments cumulés permettent à la fois une sorte d'acharnement judiciaire, faut quand même dire la vérité, acharnement pour la vérité, même si on est dans une affaire où on sent bien qu'on est assez près de la vérité, mais assez loin de la preuve.
C'est ça, exactement.
Et c'est ces petits écarts entre notre intime conviction, et il est assez probable que nous ayons à peu près tous la même, et la capacité de le démontrer d'une manière claire et définitive dans le cadre d'une procédure judiciaire où il faut la défense, la partie civile, l'accusation, où chacun vienne avec des armes égales. Et là, il y a encore un petit élément et on se dit, tiens, peut-être que, et le temps qui est proposé d'ailleurs dans cette enquête, parce qu'on annonce la future audition dans quelques mois.
Avec une possible mise en examen.
Avec une possibilité, ça c'est la procédure de mise en examen, mais on sent bien que c'est le temps peut-être nécessaire à ce que d'autres, par là, continue à avancer pour avoir plus que des indices.
L'autre par là, on va le retrouver, c'est général. Mais votre taux de conviction par rapport à cette stylographie, cette stylométrie, parce que ce qui frappe quand on est profane, c'est la comparaison qui est faite entre l'écrit et l'oral. C'est qu'on se dit, ah, c'est-à-dire qu'on peut parler comme ça dans une lettre de menace ou à l'oral, la même chose, on peut fixer un lien. Quel est, vous, votre taux de conviction
Ce qui nous paraît important, c'est qu'il y a des pièces qui sont quand même essentielles. C'est, à mon sens, la lettre de revendication. Parce que celui qui a écrit cette lettre, celui ou celle qui a écrit cette lettre, qui l'a postée, qui a revendiqué, cette lettre qui est arrivée chez les parents, porte des empreintes. Et d'autre part, le crime a également été revendiqué par un appel téléphonique. Oui. Et là encore, on peut avoir des espérances dans l'avenir pour faire parler justement les voix. Et parce que là encore, il y a une empreinte. Alors, la stylométrie permet également de rechercher une empreinte, qu'elle soit à l'écrit ou à l'oral. Moi, c'est la première fois, je dois dire, que dans une affaire judiciaire, je vois une expertise de stylométrie. Mais je crois qu'il ne faut pas, je vais employer un terme peut-être un peu fort, mais entre guillemets, insulter les progrès de la science, dans la mesure où, il y a moins d'une centaine d'années, on ne faisait pas d'expertise ADN. Or, maintenant, dans quasiment tous les dossiers, il y a des expertises ADN. Donc, il y a l'ADN. On sait aussi que dans cette affaire, sur la pièce essentielle, qui est la lettre de revendication, il existe des profils qui ont été identifiés, mais il y a également des profils mélangés, des ADN mélangés. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore les discriminer, les dissocier. Mais ça va venir, c'est imminent à mon sens.
En général, justement, sous le timbre, il y a des ADN mélangés. Alors des ADN mélangés, expliquez-nous ce que ça veut dire, expliquez-nous à quel horizon on pourra les démélanger pour avoir résolution.
Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement et le plus rapidement possible. Nous sommes constitués pour moitié de notre ADN par papa, pour moitié de notre ADN par maman. Et sur chaque chromosome choisi, vous avez une allèle de papa, une allèle de maman. Et vous avez comme ça une vingtaine de régions qui portent les analyses. Et ça peut être le profil est total ou le profil est partiel. C'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les régions chromosomiques sur lesquelles vous avez les fameuses allèles. Quand vous avez plusieurs ADN mélangés, qu'ils soient partiels ou total, à qui appartient cet allèle, au donneur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4? Vous en avez comme ça, ça multiplie d'autant les possibilités que vous avez un nombre d'allèles et de régions qui sont multipliés par 20, par 4 personnes, et encore multipliés par 2, puisqu'il y a 2 allèles par région. C'est-à-dire c'est très complexe et il faut des logiciels particuliers de probabilité qui travaillent sur pour telle région à l'ELIC, on aura plus de pourcentage pour que ça soit celui-là plutôt que celui-là, etc.
Est-ce que là, on sait combien il y en a de personnes différentes ?
Alors, les experts et les magistrats le savent, moi je ne sais pas.
Et à votre avis, d'ici combien de temps on saura ?
Ben, quand les progrès, c'est possible qu'au point de vue développement algorithmique sur ces probabilités alléliques, dans les deux ans, il y ait un progrès suffisant pour qu'on aille jusque-là.
Et les cassettes et les voix, parce que c'est
alors
vrai
ça
que...
c'est important. Là, je vais vous expliquer la difficulté. Je vous rappelle que la cour d'appel de Dijon avait dit on va demander la faisabilité.
Oui.
Ils n'ont pas tout de suite demandé une comparaison.
Exactement.
Pourquoi 84, tout est analogique. L'analogique, c'est le téléphone à fil,
oui.
C'est le magnétophone à bande. L'analogie a un gros défaut, c'est qu'elle écrête les sommets des longueurs d'onde de la voix.
D'accord.
Et on perd beaucoup de signal. Actuellement, nous sommes dans le tout numérique. On doit comparer du tout numérique avec un signal qui n'a pas la même teneur. Donc, c'est très compliqué. Très compliqué de pouvoir reporter l'un avec l'autre. Mais, après tout, on peut espérer à trouver un certain nombre de concordances. En revanche, on peut déjà travailler sur les bruits de fond.
Ah oui.
Je vous rappelle que bruit de fond, il y a une cloche.
Alors, ça se passe comme dans les films.
Oui. Exactement.
On dit ça qu'on isole des pistes sonores différentes.
Voilà. Ah. Et ça peut déterminer un lieu ou une proximité de lieu, voire même une maison. Et en l'espèce, on entend une personne.
On entend quelqu'un rire.
Quelqu'un rire. Et après, on entend aussi quelqu'un descendre un petit escalier qui, de mémoire, a 13 marches.
Oui, parce que ça a été compté.
Ça a été compté
à l'époque.
Oui. Et de mémoire, et là c'est sous couvert, votre couvert, maître, il me semble qu'il y avait deux maisons qui avaient ce type d'escalier, en tout cas répertorié, celle des époux Jacob et celle de La Roche.
Je me souviens effectivement, on avait compté le nombre de marches et de pas. Alain Bauer et maître Chastonban, pour terminer, la même question à vous deux. On parle beaucoup des progrès de la technologie. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'oublie pas ? Ce sont les aveux potentiels avec la menace technologique. Est-ce que vous croyez à cette possibilité qu'un jour, quelqu'un dise « c'est moi » ou « je sais » et je peux l'affirmer ?
C'est le rêve éveillé de
c'est mon côté romantique,
tous
hein,
ceux qui pensent que l'aveu est toujours la reine des preuves. Alors d'abord, ce n'est pas toujours le cas.
C'est vrai.
Et on a des gens qui avouent et qui ne sont pas coupables. On a eu un moment, une minute d'aveu potentiel lors de la garde à vue initiale de
Muriel Boll.
Donc rien n'est impossible. Non, je pense que la construction aujourd'hui de l'enquête, c'est plus l'aveu. L'aveu, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais ce qui est important, c'est la construction de l'enquête. Et pour travailler beaucoup avec la police de New York sur les évolutions technologiques, je peux vous dire qu'on est dans une question de mois plutôt que d'années. Et sur les fonds sonores et sur les transcriptions analogiques pour les cassettes vidéo comme pour les cassettes audio, et surtout pour l'extraordinaire pouvoir de discrimination et de réinterprétation de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui reproduit en numérique ce qu'on ne pouvait pas en analogique et du coup compense les... Alors, il y a une partie hallucinatoire, ça s'appelle comme ça, hallucination, c'est-à-dire faut pas être totalement confiant parce que de temps en temps, ça peut être n'importe quoi, mais ça aide énormément à enfermer une hypothèse comme un indice dans un faisceau de présomption, un faisceau de présomption dans quelque chose qui ressemblerait assez bien à une preuve.
Maître Chastonban, est-ce que vos clients, les parents de Grégory, Jean-Marie Christine Villemin, croient qu'un jour ils sauront ce qui est advenu, ce qui s'est passé, qui est responsable de la mort de leur enfant ?
Ah ben ça, ils l'espèrent.
Ils l'espèrent, mais est-ce qu'ils y croient désormais un peu plus ?
Ils ont un espoir, effectivement. Ils ont un espoir. Peut-être pas que, j'allais dire, on dise « c'est moi ». Parce qu'il s'est passé quand même un certain nombre d'années, faut pas croire au Père Noël. En revanche, il n'est jamais trop tard pour parler, et ils sont persuadés, convaincus, qu'il y a un certain nombre de personnes autres qui savent ce qui s'est passé. Certains ont pu être témoins, parce que ça s'est quand même passé en pleine journée, hein. Il y avait beaucoup de maisons alentour, etc., vers 17h, 17h30. Donc, certains savent, ont vu, certains ont entendu. Donc, certains peuvent parler, et ils espèrent, et je le dis ici, il n'est jamais trop tard, même si on s'est tu.
C'était le sens de ma question à la mort, effectivement.
C'est clair. Mais ils croient également dans la science, dans les progrès de la science qui ont été évoqués, l'intelligence artificielle que vous avez évoquée également, et Il n'y a pas d'acharnement en ce qui les concerne. Nullement, j'ai entendu ce mot. Il n'y a aucun acharnement
pour la vérité,
judiciaire. Oui, il n'y a pas d'acharnement. En revanche, jamais ils n'ont lâché.
Ouais.
Et ce qu'ils souhaitent véritablement, c'est que tout ce qu'il est possible de faire pour connaître la vérité soit fait.
Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau d'Affaires Sûres.